un podcast RFI.
Nous sommes le 15 mai sur la place de la Mangeoire à Bethléem, dans ce territoire palestinien nommé Cisjordanie. Le 15 mai est une date symbolique pour les Palestiniens. C'est la journée de commémoration de la Nakba. En arabe, cela signifie la catastrophe et cela désigne l'exode forcé d'environ 750 000 Palestiniens en 1948. C'était plus de la moitié de la population arabe de ce territoire.
Mon grand-père a dit à ma grand-mère de ne pas éteindre le feu de la cuisinière et de laisser la casserole dessus. Et lui a dit, on ne va partir qu'une heure ou deux. Et quand on reviendra, le dîner sera prêt. Mais cela fait 76 ans désormais et le dîner n'est toujours pas prêt.
À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le Proche-Orient est en pleine recomposition. La France et le Royaume-Uni, puissances occupantes depuis la fin de la Première Guerre mondiale, se retirent. C'est le Royaume-Uni qui contrôlait la Palestine depuis le démantèlement de l'Empire ottoman. Il a annoncé son départ en 1947. Les Nations Unies, fraîchement créées, ont tenté de dessiner l'avenir de ce territoire. Un plan de partition est présenté. Il prévoit la création d'un État arabe sur 45% du territoire et d'un État juif sur 55%. La ville de Jérusalem, elle, est censée être placée sous contrôle international. Les pays arabes expriment leur opposition. Mais le 29 novembre 1947, le plan est adopté par l'Assemblée générale. Les confrontations entre les deux communautés commencent après l'adoption de ce plan. Et elles gagnent en intensité au cours des mois suivants. L'exode des civils commence. Le 14 mai 1948, le mandat britannique sur la Palestine s'achève. David Ben-Gourion proclame le même jour l'indépendance d'Israël. Mais les combats contre les Palestiniens, soutenus par les pays voisins, se poursuivent. L'armistice est finalement signé en 1949. Au terme de cette guerre, Israël a renforcé ses gains territoriaux. Le nouvel État contrôle alors 78% du territoire. Le reste est divisé entre l'Égypte, dans la bande de Gaza, et la Jordanie, en Cisjordanie et Jérusalem-Est. 460 localités palestiniennes ont été évacuées ou détruites. Un exode commémoré encore tous les ans, plus de 70 ans plus tard.
Nous avons ces commémorations chaque année, mais cette année, c'est la pire. Parce que les gens ont peur de participer.
Je suis Guilhem Delteil, grand reporter à RFI. Vous écoutez Palestiniens, premier épisode, carte d'identité, réfugiés. En ce 15 mai à Bethléem, alors que les cloches de la basilique de la Nativité marquent midi, un rassemblement se forme sur la place de la Mangeoire, au cœur de la vieille ville. Quelques minutes plus tard, une sirène impose un moment de recueillement. Je suis souvent venu sur la place de la Mangeoire. C'est le cœur de Bethléem, une ville historique joliment rénovée. C'est un lieu de rassemblement festif, notamment lors des célébrations de Noël. Mais c'est aussi un lieu de rassemblement politique, comme en ce 15 mai. Parmi les personnes présentes, beaucoup portent un keffieh blanc et noir, un vêtement qui vise à se protéger de la poussière et du soleil devenu symbole de la résistance palestinienne. Certains ont aussi des t-shirts sur lesquels figure une clé. Cette clé, c'est un autre symbole très présent dans la culture palestinienne. Nous le retrouverons à plusieurs reprises au cours de cet épisode. Il évoque les maisons perdues en 1948, l'attachement qui demeure, génération après génération, et le rêve de pouvoir, un jour, rentrer dans les villages d'origine, même si pour beaucoup d'entre eux, ils n'existent plus.
Bonjour Mounzer Amira.
Hi.
Mounzer Amira porte l'un de ses t-shirts. Réfugié, fils de réfugié, petit-fils de réfugié, il tient à être présent tous les 15 mai pour les commémorations de la Nakba. Je l'avais rencontré lors d'un reportage il y a quelques années en raison de son engagement sur la question des réfugiés. Même si je ne lui avais pas donné rendez-vous, il aurait été là.
La Nakba est un concept très important en Palestine. Elle signifie torture, souffrance, nettoyage ethnique, génocide, une souffrance dans tous les domaines de nos vies. La première souffrance a été de nous forcer à quitter nos terres en 1948. Souffrance car nous vivons toujours dans des camps de réfugiés. Souffrance liée au fait que cela fait 76 ans que nous vivons loin de chez nous et que nous avons une vie très difficile. Nous avons perdu beaucoup de gens tués par l'occupation israélienne. La Nakba, c'est un processus continu, mais elle devient de plus en plus forte, surtout depuis le 7 octobre. Gaza est notre grande Nakba actuellement. Ils tuent des gens, des femmes, des enfants, détruisent nos maisons. Ils nous chassent partout, même à Gaza. Ils ne veulent pas que nous vivions en paix. Mais la Nakba se déroule aussi en Cisjordanie, dans des communautés bédouines chassées de chez elles, dans un camp de réfugiés comme Nur Shams à Tul Karem, où des maisons et des routes ont été détruites, des jeunes tués, des gens arrêtés, ou encore dans les prisons israéliennes, avec les arrestations et la torture. Nous avons 10 000 prisonniers politiques. Ils les torturent nuit et jour. C'est une Nakba.
Selon un décompte établi en 2024 par Adamir, une ONG palestinienne de soutien aux prisonniers, 9700 Palestiniens, hommes, femmes et enfants, sont détenus par Israël. Munzer Amira a été l'un d'entre eux. En décembre 2023, après les attaques du 7 octobre, il a passé plus de 2 mois en détention sans être jugé. En un peu moins de 75 jours de captivité, il a perdu 33 kilos. À sa libération, il a raconté les fouilles à nu, les humiliations infligées par ses gardes, les réveils au milieu de la nuit.
Nous avons ces commémorations chaque année, mais cette année, c'est la pire. Parce que les gens ont peur de participer. Ils ont été menacés par l'armée israélienne, par les services de sécurité israéliens. Ils ne veulent pas que qui que ce soit fasse entendre sa voix. Alors les gens ont peur de venir. Là, vous voyez très peu de gens, mais d'habitude, nous avons ici des milliers de personnes.
Nous retrouverons un peu plus tard Munzer Amira dans le camp de réfugiés où il vit. Mais pour comprendre l'impact de la Nakba, celle de 1948, je vous emmène tout d'abord en Jordanie. Car lors de la première guerre israélo-arabe, les Palestiniens qui ont fui ou ont été chassés ont trouvé refuge dans des zones encore contrôlées par les pays arabes. Que ce soit à l'intérieur des frontières de la Palestine historique ou dans les pays voisins, Liban, Syrie et Jordanie notamment. Aujourd'hui, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, recense 5 900 000 réfugiés. Plus de la moitié d'entre eux vivent hors des frontières palestiniennes. Et la Jordanie est le pays qui en accueille le plus. 2 300 000 réfugiés palestiniens vivent sur son territoire. Il n'y a qu'une centaine de kilomètres entre Bethléem et Amman. Je prends la route jusqu'au poste frontière. Elle part vers l'est, descend au fond de la vallée du Jourdain, contourne la ville de Jéricho et arrive au pont dit du roi Hussein en Jordanie, Allenby en Israël. Dans les territoires palestiniens, les frontières sont contrôlées par Israël. La traversée du Jourdain se fait en bus, puis côté jordanien, je remonte vers Amman en taxi. Abdallah Abdel Fattah Chaber est assis sur un tabouret en plastique devant sa maison. L'homme a 90 ans et les fragilités dues à son grand âge. Mais même s'il se déplace difficilement, il tient à me faire entrer. Pas question pour lui que des invités restent dans la rue. Abdallah Abdel Fattah Chaber a vécu la Nakba. En 1948, il avait 14 ans. Il fait partie des derniers témoins de cette génération. Désormais, son audition est mauvaise, son élocution un peu difficile, mais ses souvenirs de l'époque restent précis.
Je viens du village de Hatta. Les Juifs habitaient à Beit Hafa, près de Hatta.
Abdallah Abdel Fattah Chaber se souvient de sa vie d'enfant à Hatta. Des vendredis, jour où il n'avait pas école, passait à récolter les oranges à Jabalia, qui est aujourd'hui dans la bande de Gaza. Ses souvenirs l'emmènent loin, et c'est l'un de ses fils qui reprend le fil du récit de l'Exode, racontant ce qu'il a entendu de nombreuses fois depuis son enfance.
Lorsque les Juifs sont arrivés dans les villages voisins, leurs comités ont brûlé les récoltes, incendié les villages. Et ils marchaient vers Hatta. Et à Hatta, mes parents ont entendu parler des incendies, des meurtres, des déplacements forcés. Alors, ils ont pris leurs affaires et sont partis à pied vers Fallujah, un autre village, parce qu'ils avaient peur. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication. Ce qui se passait, c'est que lors des massacres comme ceux de Deir Yassine, d'Al-Dawaïma, les Juifs tuaient tout le monde dans le village, sauf quelques-uns. Et pourquoi laissaient-ils des survivants? Eh bien pour qu'ils s'enfuient dans d'autres villages et racontent les meurtres, les viols et tout ce qui se passait. Et que s'est-il passé? Les gens ont eu peur.
L'important, c'est que nous sommes partis. Il y avait plusieurs villages qui se sont rassemblés à Fallujah, Hatta el-Sawafir. Il y avait beaucoup de gens et nous avions juste un peu d'eau qui venait de la source. Ce n'était pas suffisant.
Combien de temps êtes-vous resté à Fallujah?
3 nuits.
Abdallah Abdel Fattah Jaber et sa famille ont continué leur périple pendant plusieurs semaines. Ils ont traversé le désert de Judée et ses montagnes arides, puis sont descendus vers la mer Morte et la vallée du Jourdain. Plusieurs dizaines de kilomètres parcourus à pied avec d'autres familles dans un territoire alors contrôlé par l'armée jordanienne. Ils sont finalement arrivés près de Jéricho.
Là, partout il y avait des tentes blanches. L'armée britannique était là, mais elle partait. Et elle laissait tous ses déchets dans des trous creusés avec un revêtement en béton. Le camp a été créé par la Croix-Rouge, puis repris par une roi. Donc chaque chef de famille pouvait amener toute sa famille, ses enfants, sa femme. Mais tout le monde devait se faire vacciner. J'étais l'un d'entre eux. Ils ont installé des conduits d'eau à partir de l'étang et l'ont distribué aux habitants du camp. Dans le camp, il y avait environ 30 000 habitants. Ils étaient divisés en quartiers, une alloi 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y avait eu des marchés, des mosquées, et les choses ont évolué.
L'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies créée spécifiquement pour venir en aide aux réfugiés palestiniens en décembre 1949. Elle a pris la gestion des camps créés dans l'urgence l'année d'avant. Au fil des ans, les tentes sont devenues des constructions en dur. Abdallah Abdel Fattah Jaber, lui, est devenu adulte. Il s'est marié, a eu de premiers enfants. Mais 19 ans plus tard, en juin 1967, la guerre a repris. Les pays arabes ont renforcé leur alliance, isolant Israël et lui imposant notamment un blocus maritime en mer Rouge. Pour rompre cet isolement, Israël lance une offensive. En seulement 6 jours de combat, du 5 au 10 juin 1967, le pays conquiert la Cisjordanie et Jérusalem-Est face aux Jordaniens, la bande de Gaza et le sud du Sinaï face à l'Égypte et le plateau du Golan face à la Syrie. Entre un quart et un tiers des Palestiniens vivant dans les territoires conquis sont à nouveau déplacés, certains pour la deuxième fois. Abdallah Abdel Fattah Jaber, ses parents, sa femme, ses enfants ont repris la route de l'Exode et sont venus s'installer en Jordanie. Après un passage par Amman, puis Karama, sur les rives du Jourdain, ils sont arrivés 2 ans plus tard dans le camp de Talbiyeh, au sud d'Amman. Mohamed est le fils aîné d'Abdallah. Il avait alors 11 ans.
Notre maison au départ, c'était juste une pièce. Elle mesurait environ 4,50 m sur 3,50 m. C'était juste ça. Si tu voulais aller aux toilettes, il fallait que tu ailles aux douches publiques à environ 150 m. Certains de nos enfants dormaient chez mon grand-père dans cette pièce-là. Et les autres dormaient dans la chambre de ma mère et de mon père. C'était leur chambre. En été, nous dormions dehors, dans la cour. Aujourd'hui, il n'y a plus de cour. Nous avons agrandi la maison et construit des pièces là où elle se trouvait. Maintenant, il y a 3 chambres, un salon et une salle de réception pour les invités.
Quand vous êtes arrivé dans le camp ici de Tel Biyeh, quel type de service était fourni par l'UNRWA ?
Quand nous sommes arrivés ici, il y avait une cantine. Elle était tout au bout de la rue. Chacun avait une carte pour y accéder. Vous veniez avec votre assiette, on vous donnait à manger, vous vous asseyiez, puis vous repartiez. C'est comme ça que ça a commencé.
À quel moment ont commencé à apparaître les écoles, les établissements de santé, de soins ?
L'école a été créée dès le début. Avant même que les constructions ne soient tendues. Ils avaient installé une grande tente, et c'était ça notre école. Quand l'école a été construite, nous y avons été transférés.
Le centre de santé se limitait à un médecin. L'eau n'est arrivée dans les foyers que dans les années 70, l'électricité en 1983. Il a fallu 13 ans à la famille Jaber pour avoir une maison équipée d'une cuisine, d'une salle de bain et dotée de l'eau et de l'électricité. Ces conditions de vie rudimentaires ont poussé un certain nombre d'habitants à quitter les camps. D'autres Palestiniens arrivés en Jordanie, eux, n'y ont jamais vécu. Nous sommes à Salt, à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Amman. La ville surplombe la vallée du Jourdain devant nous. Une vue à couper le souffle, des montagnes aux sommets arrondis, une terre brune, quelques touches plus ocre et des taches vertes qui sont des champs d'oliviers. Au fond de la vallée coule le fleuve du Jourdain, ce fleuve qui sépare la Jordanie des territoires palestiniens et d'Israël, entouré d'exploitations agricoles des deux côtés de la frontière. Car d'ici, on voit la Cisjordanie et son relief, ces montagnes qui remontent vers Naplouse devant nous, vers Jérusalem plus au sud, des villes où nous nous rendrons dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, comme souvent, le vent soulève du sable qui obstrue la vue. Mais lorsque le temps est dégagé, on peut deviner la ville sainte. Nous nous trouvons d'ailleurs devant un restaurant qui se nomme Tal al-Quds, la vue sur Jérusalem en arabe. Sur la façade du bâtiment, le dôme du rocher est peint, l'une des mosquées de l'esplanade de Jérusalem, 3e lieu saint de l'islam. Beaucoup de symboles de l'histoire palestinienne également. On retrouve de manière récurrente dans la décoration de ce lieu cette clé de maison que les Palestiniens ayant fui, par peur ou sous la contrainte, ont emportée avec eux, pensant revenir quelques jours plus tard. Salt, c'est une ville où beaucoup de réfugiés palestiniens sont arrivés car c'était l'une des plus proches de ce qui est aujourd'hui la frontière, l'une des premières traversées en arrivant en Jordanie. Certains de leurs descendants vivent toujours ici, pas dans des camps de réfugiés, il n'y en a pas dans la ville, mais ils vivent dans des maisons intégrées à la société jordanienne. La grande majorité des réfugiés palestiniens en Jordanie ne vit d'ailleurs pas ou plus dans les camps et nous sommes venus ici rencontrer l'un d'entre eux.
Bonjour, je m'appelle Michel Fachou et je suis né ici à Salt. C'est mon grand-père qui est venu de Jaffa, en Palestine, en exil, ici, en 1948. C'est ici qu'il a vécu et élevé ses enfants. Mon père était son fils aîné, il avait une dizaine d'années. Mon grand-père avait sa maison. Financièrement, il s'en sortait bien, il était heureux. Mais il a eu peur pour ses enfants et il a dû partir. Ils lui ont dit que dans 2 ou 3 semaines, tout se calmerait et qu'il pourrait revenir. Mais les choses ne se sont pas arrangées. On leur a menti.
Qui vous a dit de partir ?
Les militaires israéliens leur ont dit qu'ils devaient partir pour un certain temps et qu'ils reviendraient dans 2 semaines. Certaines personnes avaient des moyens financiers importants et sont donc parties avec leur voiture. Mais les autres ont été forcés de marcher. Aujourd'hui encore, mon grand-père a les clés de sa maison en Palestine.
Est-ce que vous savez pourquoi votre grand-père a décidé de venir s'installer ici à Salt spécifiquement ?
La région la plus proche de Jéricho, c'est le gouvernorat de Salt. Tous ceux qui sont partis sont donc d'abord arrivés à Salt, puis ont commencé à se déplacer vers Amman, Al-Zarqa et d'autres régions de Jordanie.
Mais il n'y avait pas de camp, il n'y avait pas de structure d'accueil ici à Salt.
Non, il n'y avait pas de camp de réfugiés. Les gens qui venaient à Salt devaient louer des appartements et des petites maisons pour y vivre.
Votre famille a tout de suite pu trouver un logement ici ?
Non, lorsqu'ils sont arrivés à Salt, il y avait un club appelé Salt Club dans lequel ils ont vécu pendant quelques jours. Puis, ils ont commencé à chercher une maison à louer.
Et vous avez le sentiment aujourd'hui d'être pleinement intégré à la vie jordanienne ?
Oui, bien sûr. Je vis ici en Jordanie et j'ai un grand respect et une profonde gratitude pour le pays. Je suis heureux ici. J'ai des relations avec la cour royale, les différentes organisations et avec la communauté locale. Et la cour royale m'a fait l'honneur de me nommer membre du conseil régional. C'est extraordinaire. Ce qui m'a poussé à travailler dans le secteur humanitaire, c'est que mon grand-père m'a raconté à quel point il était difficile pour les gens d'être expulsés de leur maison. En travaillant pour le Secours catholique, lorsque les réfugiés syriens et irakiens sont arrivés, nous avons vu à quel point ils souffraient d'être terrorisés. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai ressenti la souffrance de mon grand-père. Surtout lorsque vous avez des enfants en bas âge et que vous devez quitter votre maison sans rien, sans nourriture, sans eau, sans vêtements.
La Palestine, toute la Palestine, de la mer au fleuve, est une terre arabe. Ces mots, Mazen Saleh les tire d'une de ses œuvres. Ce presque octogénaire, ingénieur de carrière, aujourd'hui à la retraite, a publié 13 livres, des essais et des recueils de poésie. Et la Palestine est présente dans chacune de ses œuvres, comme sur les murs du salon de son appartement d'Amman.
Cette photo, c'est celle d'un terrain que mon père a planté de ses mains. Il existe toujours, mais je ne peux pas y aller. Ça me fait mal, très mal. À mon grand âge, je suis devenu très émotif. Rien ne me fait pleurer, alors que j'étais très dur dans ma vie.
Mazen Saleh est originaire de Talfit, un village au nord de la Cisjordanie. Il a fait toute sa carrière en Jordanie, mais ce n'était pas son choix.
Je suis allé faire des études au Royaume-Uni. C'était en 1964. Je suis un ingénieur, diplômé du Royaume-Uni. Et la guerre de 1967 a commencé quand j'étais en train d'étudier là-bas. Et les Israéliens ne m'ont pas laissé rentrer. La guerre a commencé alors que j'étais à l'étranger. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont toujours pas autorisé à revenir. Je n'ai eu un permis qu'une seule fois. C'était pour les funérailles de mon père.
C'est Israël qui ne vous accorde pas ce permis.
Oui, c'est ça.
It hurts.
Et ça fait mal.
You know, imagine that if you want to go to France.
Ça fait mal. Imaginez que vous vouliez aller en France et que quelqu'un vous dise « Désolé, vous avez besoin d'un permis. Vous n'êtes pas autorisé à venir en France. Visitez votre pays et voir votre peuple. »
Après avoir conquis la Cisjordanie, Israël a recensé les Palestiniens qui y vivaient. Mazen Saleh, lui, était au Royaume-Uni à ce moment-là. Et Israël ne lui a jamais donné de document d'identité lui permettant de retourner vivre dans son village. À la fin de ses études, Mazen Saleh est donc venu s'installer en Jordanie. Et comme la majorité des Palestiniens vivant dans le pays, il a la nationalité jordanienne. Comment vous situez-vous entre votre identité palestinienne et cette place que vous avez aujourd'hui dans la société jordanienne ?
C'est une bonne question. Parce que dans la nouvelle génération, certains commencent à oublier qu'à l'origine, nous étions une seule nation, On l'appelait la Grande Syrie, avec la Jordanie, la Palestine, le Liban, la Syrie. Donc pour moi, que nous soyons palestiniens ou jordaniens, nous sommes une seule nation. Nous ne ressentons pas la moindre différence.
Vous, comment définiriez-vous votre vie ici en Jordanie ?
Je me sens à la maison. Mais la Palestine est aussi ma maison. La Jordanie est autant ma maison que la Palestine. Les deux en parallèle. Il n'y a aucun doute pour moi.
La Jordanie est toutefois une exception. Parmi les pays d'accueil des réfugiés, c'est le seul à avoir accordé la nationalité. Les autres considèrent encore les réfugiés comme étant là provisoirement. Au Liban et en Syrie, les réfugiés palestiniens n'ont donc pas de nationalité. Et les pays d'accueil leur laissent une place restreinte dans la société. Certaines professions leur sont interdites. Les réfugiés palestiniens sont marginalisés, socialement et économiquement. Le poème que vous entendez, c'est « Je suis un enfant palestinien ». C'est l'un des plus connus de Mazen al-Saleh. Il est enseigné dans certaines écoles et Mazen al-Saleh a récemment découvert que des enfants gazaouis entonnaient ces vers. Il est même tombé sur une vidéo d'un petit garçon dans un champ de ruines, en pleine guerre, récitant son œuvre. Retraversons le Jourdain pour revenir dans les territoires palestiniens. Aïda est l'un des deux camps de Bethléem. Je suis venu y retrouver Munter Amira, ce travailleur social que nous avions rencontré sur la place de la Mangeoire, au cœur de la vieille ville de Bethléem. Aïda, c'est le camp dans lequel il vit. Il le fait régulièrement visiter à des étrangers. Une façon pour lui de tenter de sensibiliser aux réalités de la vie ici. Une vie au pied du mur de séparation, cernée par les blocs de béton, les miradors et les fils barbelés, avec une base militaire israélienne, à quelques centaines de mètres. Au départ, il n'y avait ici, sur la route entre Jérusalem et Hébron, qu'un café permettant aux voyageurs de faire une pause. Un café tenu par une femme nommée Aïda. Mais en 1948, 400 personnes sont venues se réfugier à cet endroit. Elles venaient de 17 villages tout juste détruits. La famille de Munter Amira est originaire de Deir Aban, un village qui se trouvait au sud-ouest de Jérusalem. Elle est arrivée ici en 1952. Pendant plusieurs années, elle s'est déplacée de l'agglomération de Bethléem à celle de Jéricho avant de revenir à Bethléem pour être le plus près possible de leur village d'origine.
Vous êtes de la troisième génération. Les gens restent génération après génération dans le camp de réfugiés. Pourquoi restent-ils ici ?
Le camp n'est pas qu'un lieu de vie, c'est une identité pour nous, et nous voulons la conserver. C'est l'idée que nous voulons rester ici jusqu'à ce que nous rentrions. Les camps de réfugiés aujourd'hui donnent de la voix aux réfugiés. Cela fait partie de notre combat, de notre histoire. Donc nous faisons de notre mieux pour rester ici et enseigner à nos enfants que nous ne sommes pas d'ici. C'est un camp de réfugiés. Même s'il y a des maisons en dur, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des réfugiés. L'une de nos plus grandes erreurs en tant que Palestiniens a été, dans les années 50, d'accepter de quitter les tentes et de construire des maisons. Si nous étions restés dans les tentes, nous aurions été plus proches de rentrer chez nous. Mais il n'y avait pas de dirigeants palestiniens qui fassent l'unanimité à cette époque. Maintenant que nous sommes là, dans des maisons en dur, nous faisons de notre mieux pour avoir une belle vie. On veut que nos enfants aient de bonnes conditions de vie, mais dans le même temps, on leur apprend que nous ne sommes pas d'ici. Je suis de Deir Aban. C'est pour ça que j'ai fait cette énorme clé sur la porte d'entrée du camp, pour leur apprendre chaque jour que nous ne sommes pas d'ici. Et nous avons écrit « pas à vendre ». Notre rêve n'est pas à vendre, nos droits ne sont pas à vendre. Un jour viendra où nous prendrons cette clé et nous retournerons dans nos villages d'origine.
Ce rêve de retour demeure une revendication très forte de l'ensemble des formations politiques palestiniennes. Et Munzer Amira me rappelle que les réfugiés ont été au cœur de la lutte nationale.
Si vous regardez bien, vous verrez que la plupart des martyrs morts au combat venaient des camps. Pareil pour les prisonniers. Si vous comptez les jours de couvre-feu, vous réaliserez que les camps de réfugiés ont passé longtemps, très longtemps sous couvre-feu. Si vous regardez les dirigeants des révolutions, ils viennent des camps. C'est la réalité. Depuis le début, la bataille est ici, dans les camps. Parce que c'est notre principal combat. Le droit au retour, que tout le monde essaie de faire disparaître. Mais on n'acceptera pas. Cela ne sera pas facile, mais c'est notre droit. Nous voulons rentrer dans nos villages.
Pourquoi les camps de réfugiés sont-ils plus touchés, concernés par ce combat, cette lutte nationale palestinienne que les autres sphères de la population palestinienne ?
Parce que les principales pertes étaient là. Nous avons perdu nos terres, nos maisons, nos villages. Et la vie ici est difficile dans les camps de réfugiés, plus qu'ailleurs. Aïda a été construit pour 500 personnes. Mais maintenant, nous sommes 5000 avec peu de services. Si vous regardez les dirigeants palestiniens, vous verrez que la plupart d'entre eux sont des réfugiés. Alors oui, la question palestinienne, c'est la question des réfugiés. Si nous pouvions rentrer chez nous, ce serait terminé.
Cette lutte palestinienne dans les camps, elle se traduit comment ? Par des actions politiques, par des actions militaires ?
Les deux. Je me considère comme un militant pacifiste, partisan de la non-violence. Mais vous en trouverez peu comme moi. Vous trouverez en revanche les dirigeants de la lutte armée, les chefs des partis politiques. Vous trouverez le Fatah, le Hamas, le FPLP dans les camps. Vous trouverez des partisans d'une solution à un État, d'une solution à deux États. Il y a toutes les opinions.
Les camps, ce sont aussi des lieux d'opérations régulières de la part de l'armée israélienne qui vient, qui fait des descentes dans les camps depuis des décennies.
Oui, leurs principales opérations, vous les trouverez ici, dans les camps. Ils visent les camps avec des missiles, des M16, des gaz lacrymogènes. En 2018, Aïda était le lieu qui a reçu le plus de gaz lacrymogènes au monde. Nous avons été ciblés par le mur. Le mur nous encercle de trois côtés ici. Les moyens d'intervention ont changé selon les époques. Durant la première intifada, ils étaient tout le temps dans le camp. Durant la seconde intifada, ils tiraient des missiles sur le camp. Après cela, ils ont construit le mur autour du camp. Maintenant, ils rentrent, ils tuent des gens dans les camps, ils arrêtent beaucoup de monde. Si vous allez chez les gens, vous allez voir que dans chaque maison, quelqu'un a été arrêté. Ou vous trouverez un martyr, quelqu'un de blessé ou expulsé. Vous trouverez tout.
Pour les Palestiniens, le terme de martyr désigne les personnes tuées par les forces israéliennes, les combattants, mais aussi, le plus souvent, des civils. En attendant une résolution définitive du conflit, le statut de réfugié palestinien se transmet de génération en génération. Cette reconnaissance, censée être temporaire, s'inscrit dans le temps, et les nouvelles générations conservent la mémoire de leurs aïeux.
Je m'appelle Saïd Zboun. Je suis l'un des réfugiés. Je vis dans le camp d'Aïda. À l'origine, je viens de Jérusalem. C'est seulement à 6 km d'ici, et je n'y ai jamais été de toute ma vie. On considère que je suis un réfugié de la troisième génération après la Nakba.
Saïd Zboun a 26 ans. Ce sont ses grands-parents qui ont quitté leur village. Et le récit familial, il le connaît bien.
Mon grand-père m'en parlait constamment. À chaque fois que je vais le voir, il ne parle que de la Nakba. Il ne parle que de sa vie avant 1948 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne parle de sa vie d'avant. Il a 97 ans, mais dans sa tête, il est resté à 24 ans, l'âge auquel il est parti. Jérusalem est un endroit qui nous est très cher, un lieu que je n'ai jamais vu, mais je le connais à travers la description, comme mon grand-père m'en a fait. À chaque fois, il me parle de notre maison, de la ville, de l'harmonie qui est régnée. C'est comme ça que j'ai beaucoup appris sur notre histoire. Je connais même la dernière conversation entre ma grand-mère et mon grand-père avant qu'ils ne partent de la maison. Mon grand-père a dit à ma grand-mère de ne pas éteindre le feu de la cuisinière et de laisser la casserole dessus. Et lui a dit, on ne va partir qu'une heure ou deux. Et quand on reviendra, le dîner sera prêt. Mais cela fait 76 ans désormais et le dîner n'est toujours pas prêt.
Saïd Zboun a entendu de nombreuses fois l'histoire familiale. Pendant longtemps, il en a voulu à ses grands-parents d'être partis.
J'ai toujours eu cette pensée dans ma tête. J'ai toujours reproché à mon grand-père d'avoir quitté Jérusalem. Comment quelqu'un peut-il partir de chez lui? Même si tu dois être tué, tu ne peux pas partir de chez toi. Mais chaque jour en Palestine est une Nakba. Et les génocides actuels, qui est pire ressemblable au moins à la Nakba, qui se déroule sous nos yeux, m'a permis de comprendre ce qui s'est passé en 1948. Il m'a dit qu'il mangeait les feuilles des arbres pour survivre. Mais je n'arrivais pas à le croire. Il y avait 7 pays arabes autour de nous, le monde, la communauté humanitaire. Mais maintenant, je comprends enfin. Ok, c'est la même chose qui se répète. La seule différence, c'est que ce n'était pas filmé. La seule mémoire, c'était leur récit et leurs souvenirs. Quand je vois maintenant ce qui se passe dans le nord de la bande de Gaza, comme ils jouent avec les civils, les déplaçant du nord au sud, du sud au nord, les empêchant d'avoir de la nourriture. Maintenant, je réalise quelle était la position de mes grands-parents. Et je ne lui reprocherai plus jamais d'être parti désormais.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu aussi la vie dans le camp? Comment ça se passe? Quels sont les défis auxquels vous devez faire face au quotidien en tant qu'habitant de ce camp à Haïda?
Chaque jour, je me réveille et je me dis que c'est une nouvelle journée de survie, depuis mon enfance. Et je continue de dire que nous survivons jour après jour. Je dis au revoir à ma mère comme c'était la dernière fois que je la voyais, car nous savons que nous pouvons être tués à n'importe quel instant. J'ai perdu beaucoup d'amis qui ont été tués ici, sous nos yeux. Ce sont des souvenirs qu'on ne peut pas effacer. On ne peut pas s'habituer à ça. Mais c'est quelque chose qui nous a été imposé et le monde l'a accepté. Pourtant, l'éducation ici est très élevée. Selon le dernier recensement, 67% des habitants ont un diplôme universitaire. C'est un taux très élevé. On essaie de créer de la vie à partir de rien. Voilà qui nous sommes. Là-bas, c'est ma maison, juste en face de ce mirador. J'ouvre la fenêtre et je vois un soldat me regardant dans les yeux à travers la lunette de son fusil. Il n'y a pas de lieu serein ici. J'ai l'impression d'avoir un soldat dans ma chambre, un autre dans ma cuisine, un autre dans ma salle de bain. Il y a les caméras aussi, parce qu'ils veulent contrer nos esprits, pas juste nos corps.
Saïd Zboun s'est récemment fiancé. Il est donc en train de préparer sa future vie maritale, sa probable vie de famille. Mais veut-il vivre dans le camp? À l'extérieur? Quel avenir souhaite-t-il offrir à ses enfants? Ces interrogations le taraudent.
J'ai toujours dit que je ne voulais pas que mes enfants aient la même vue que moi. Mais en même temps, je ne peux pas laisser les Israéliens prendre le contrôle de ma vie amoureuse, de ma vie de couple, de contrôler quand on peut se marier et quand on ne peut pas. Ils contrôlent tous les aspects de notre vie. J'ai toujours été contre l'idée du mariage, surtout dans un endroit comme ici. Mais par la suite, je me suis demandé pourquoi j'étais contre. J'ai réalisé que c'était à cause des conditions de vie ici qu'ils m'avaient forcé à penser comme cela, à ne pas me marier, ne pas avoir d'enfants. J'ai dit à ma fiancée qu'il faudrait au moins un an avant qu'on puisse se marier. Oh, peut-être à plus. Le temps que je trouve là où nous allons vivre. J'ai un appartement dans le camp, séparé de celui de mes parents. Je pourrais y vivre. Mais ce n'est pas la vie que je veux. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous avons des rêves, des objectifs, des buts. Ici, c'est plus difficile qu'ailleurs. Mais nous arriverons tout de même. Je ne dis pas que nous sommes résilients, mais nous sommes obstinés. Nous nous obstinons pour avoir la vie que nous voulons. Et nous la construirons ensemble. Main dans la main, nous pourrons y parvenir.
Inch'Allah.
Si Dieu le veut.
Génération après génération, les réfugiés n'ont pas oublié l'histoire familiale. Et leurs villages d'origine, pour la plupart détruits, vivent encore dans les souvenirs et la mémoire des jeunes comme des anciens. Mais ce qui devait être temporaire dure désormais depuis plusieurs décennies et cette transmission mémorielle tente de concilier aussi le désir d'offrir aux enfants de meilleures conditions de vie. Ce rêve se heurte à la réalité économique, au manque de moyens, et même lorsqu'il se réalise, il ne permet pas d'échapper à l'occupation. Dans notre prochain épisode, nous évoquerons l'impact de l'occupation sur le quotidien des Palestiniens de Cisjordanie au fil des ans. Carte d'identité, Cisjordanien.